Bonjour à tous,
Bonjour.
je suis Eric Lemerdy, je suis en compagnie de Grégory Boissineau. Moi je suis consultant chez Valtech et on a déjà commencé la dernière fois par un petit épisode sur Gradle. Et là on avait été interrompu avec un problème de pile. On a des piles neuves, on va embrayer sur la suite. Voilà, Grégory, je te laisse te représenter.
Donc bonjour, moi je suis Grégory Boissineau, consultant et formateur pour le cabinet en architecture informatique Zenica. Et je suis en ce moment plus particulièrement en fait spécialisé sur la partie intégration continue et système de build.
On te verra à la conférence KidCon à Paris.
Ouais, normalement.
D'accord. Donc ça, c'est bon à savoir. Ok, donc la dernière fois, ce qu'on a vu rapidement, c'est qu'on a fait une petite présentation rapide de la vision de Gradle, en fait. Ensuite, on a défini le système de build. Enfin, c'est plutôt Grégory. Hein. il a rappelé les features essentielles de ce système de build. Et puis après, on a fait vraiment un truc assez complet. On ne pensait pas passer autant de temps dessus. C'est sur l'historique en fait de Gradle, pourquoi on en est venu là, les différents problèmes, les systèmes Ant, Maven,
Et
etc.
il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Mais bon.
Bon, à un moment, faut s'arrêter. Ok, donc là, on va partir finalement sur les critères de choix, parce qu'effectivement, on a vu toute la filiation de Gradle. Après, ce qui est intéressant que tu puisses nous expliquer, Grégory, c'est pour toi, quels sont les critères de choix essentiels lorsqu'on veut choisir un système de build, quoi.
Ben oui, parce que c'est vrai qu'au-delà des principaux systèmes de build qui sont les plus connus, qui sont Ant et Maven, il y en a d'autres. Et finalement, même entre Ant et Maven, finalement, la question c'est lequel choisir pour mon projet, pour mon infrastructure informatique. Et en fait, je dirais en fait le meilleur outil de build, c'est finalement l'outil qui est adopté par l'équipe. Hein,
C'est très agile, ça.
Oui. Alors, et c'est vrai que c'est, il n'y a pas d'outil miracle. C'est-à-dire que ça dépend tellement en fait du contexte. C'est-à-dire ça très bien du langage, du mode de fonctionnement, la connaissance de l'équipe. Et j'irais presque à dire qu'en fait, faut pas choisir un outil de build unique. Hein, de toute façon, un outil de build, tout dépend du contexte, tout dépend des besoins. Il faut choisir l'outil le mieux adopté par rapport à son besoin.
Tu as bien quelques critères objectifs à nous présenter?
Ben,
À part la préférence personnelle.
Ben, ce qu'il faut,
Des fois, c'est
c'est
tout
regarder
simplement une
tout
contrainte.
simplement les features, comme on les a énoncées en première partie.
Ouais.
Il faut regarder pour mon projet, par rapport à mon organisation existante, par rapport à mon besoin, par rapport à la connaissance de mes développeurs, ben, quel est l'outil de build qui est le plus adapté et qui va aussi être surtout le plus maintenable sur du long terme. Parce que c'est aussi une question de coût, d'investissement, surtout pour les managers. Et je dirais, s'il y a la possibilité d'utiliser plusieurs systèmes de build, pourquoi pas? Et ça, c'est très rare, parce que souvent, c'est très difficile à faire accepter par les managers, parce que ça demande de l'investissement de l'équipe, puis une connaissance de l'équipe de manière transverse sur un outil de build. Et c'est très rare.
Donc toi, quand tu rentres sur un projet, tu vas conseiller plusieurs systèmes de build à la fois?
Tout dépend, c'est-à-dire que tout dépend où tu travailles. Moi, par exemple, je travaillais dans une banque précédemment. Ils utilisaient un framework commun, tous les projets utilisaient le même framework, c'était du pur Java J2E. Bon, on avait mis en place Maven, c'était la même chose dans chaque projet, mais Maven était très adapté. Et on l'avait fait une fois pour toutes, et après ça allait très vite mettre en place le build et l'intégration continue sur un nouveau projet. Par contre, lors de ma mission actuelle, où chaque projet en fait utilise déjà un existant, chaque projet a des frameworks particuliers, a des langages particuliers, a des gestions d'équipe, des organisations qui sont particulières, ben là il y a des fois Ant c'est adapté, des fois Ant c'est la Maven convient mieux, et puis des fois on aimerait trouver quelque chose qui répond à la fois en fait à la flexibilité des Ant, mais à les conventions de Maven, et c'est là que je mets en place Gradle, et le retour est vraiment très bon, quoi. Enfin, j'en parlerai un peu plus, mais c'est.
Effectivement, tu veux essayer de nous détailler un petit peu les points clés, les facteurs différenciants en fait de Gradle.
Voilà.
Et tu vas nous détailler tout ça en détail. Les features.
Voilà. Donc, si on devait énoncer rapidement les features en fait de Gradle, donc c'est des mécanismes de convention, mais à la demande. Donc c'est les conventions de Maven, mais à la demande. On a une vraie gestion de dépendance complètement flexible grâce à Apache IV et le tout de manière programmatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus de descripteur XML. Tout est, on l'exprime vraiment complètement en langage de programmation. On a une intégration élégante avec les tâches rentes. On a une gestion d'un projet multimodule, hein, multiprojet. Vraiment très avancé. On a un support complet d'une infrastructure existante Maven IV pour lire mais aussi pour écrire, c'est-à-dire pour déployer. Hein, je vais le détailler, mais Gradle va te permettre en fait de générer en fait un artefact Maven avec ses métadonnées et de le déployer dans un repository Maven. Donc faut pas voir en fait Maven comme une complète alternative, enfin Gradle pardon, une complète alternative à Maven,
ouais.
Mais comme un complément.
D'accord.
Et puis, pour finir, la notion du Gradle Wrapper, donc on verra ce que c'est.
Ok, donc là, on va les reprendre un par un. Hein.
Voilà, sans faire trop long.
Sans faire, ouais, on va essayer de rester bien précis. Donc pour toi, la convention qui est mise en œuvre dans Gradle, en fait, essaye de nous l'expliquer, quoi, le contenu de
donc,
ces conventions.
Qu'est-ce que ça veut dire, les conventions? Donc, les conventions, c'est structure de répertoire. Donc j'ai un répertoire pour mes sources, un répertoire pour mes sources de test, un répertoire pour mes ressources de production, mes ressources de test, un répertoire pour mes scripts. Je différencie clairement en fait mes classes pass de mes sources de production, du résultat de la compilation de mes sources de production, du résultat de la compilation de mes sources de test. C'est vraiment séparé, c'est propre, c'est clair. Ensuite, j'ai la notion de convention de nom. Donc ça aide à la traçabilité, rien de plus énervant en fait d'avoir un jar par exemple junit.jar et de ne pas savoir par rapport à de connaître la version en fait de la librairie. Donc on peut regarder s'il a été construit correctement, on peut regarder à l'intérieur en fait du manifest.mf dans le répertoire metainf,
ouais.
Mais sinon on n'a pas vraiment de possibilité. Donc là le fait de nommer la librairie avec le nom, de la nommer avec la version, contenant la version,
tout de suite ça
aide.
Ça aide.
Et ensuite on a un cycle de vie, comme on parlait un petit peu à premier épisode, c'est-à-dire que naturellement, à chaque projet, je veux avant le packaging que mes tests unitaires se lancent. Et je veux, pour que mes tests unitaires se lancent, lancer ma tâche de compilation de mes sources de tests. Donc ça paraît naturel. Et ça, éviter de le réécrire à chaque fois, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est ce qui était apporté par Maven et ça on va le garder.
On le garde.
Mais si jamais j'ai envie en fait de remplacer une phase par une autre, c'est-à-dire une phase du cycle de vie, si je veux la skipper, c'est-à-dire ne pas l'exécuter ou la surcharger, c'est flexible. Je peux le faire naturellement.
Alors concrètement, comment tu fais par exemple pour contourner une convention? Dis-moi un petit peu comment tu le ferais.
Oralement c'est difficile parce qu'il faudrait que je te montre du code source en fait. Mais en gros, déjà il n'y a plus de XML.
Ouais.
Et en gros, par exemple pour skipper une phase, tu vas mettre test.disable égale on et c'est fini.
D'accord.
Une
donc,
ligne.
C'est la phase.
Test, ah oui.
C'est la phase de cycle.
Bien sûr, il faut connaître le nom des phases.
Ouais. C'est la convention là, il faut.
Voilà. Donc juste au passage, d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en fait, contrairement à Maven, et malgré sa très grande jeunesse de Gradle,
ouais.
Gradle fournit une documentation, mais vraiment d'une excellente qualité et elle est très volumineuse. Par exemple, la dernière version, en Gradle 0.6, il y a 135 pages de documentation et il y a tous les use cases, il y a tout. Tu veux monter un projet Gradle demain, que ce soit un Pojo, que ce soit un projet Java J2E, que ce soit
projet Eclipse.
Un projet Eclipse.
Un projet RCP, on va dire.
Ouais, donc un projet RCP, il n'y aura pas le use case, le chapitre consacré,
ouais,
mais à partir des éléments, tu vas pouvoir en fait. Mais tu vas.
Quand on est dans un cas assez classique, on veut builder du Java, en gros,
voilà.
on a la procédure détaillée. Ouais. Quoi, d'accord.
Alors,
ça c'est
ce que je
un
voudrais
autre
dire,
truc.
c'est que ces conventions, en fait, en Gradle, en fait, ils sont régis, en fait, par un ensemble de plugins. Et c'est vraiment c'est pas comme en Maven une notion éclatée, c'est vraiment une notion de composant. Donc en fait, tu as un plugin Java et tu vas le déclarer. Tu fais par exemple use plugin Java et là, tu dis bah, je me ramène avec les conventions d'un POJO, un cycle de vie, convention de répertoire, convention de nœud. Mais si je le déclare pas, j'utilise pas les conventions. Et comme ça, tu as plein de plugins. Tu as le plugin Java donc pour du Java, tu as le plugin Groovy pour des projets Groovy, tu as le plugin WAR pour des projets web. Tu as le plugin Jetty lorsque tu veux déployer ou runner ta web app de manière standalone dans un Jetty. Donc
C'est
ça va.
facile à écrire un plugin comme ça ou...
Alors en fait, c'est aussi un des avantages, c'est que l'écriture d'un plugin Gradle, c'est simple. Alors tu vas me dire, c'était aussi
T'en as
simple
déjà
en.
écrit?
Oui, j'en ai écrit un,
Ouais.
justement pour Eclipse. Et que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, là, d'ailleurs cette semaine. Et donc l'idée, bah, voilà, c'est roapé, on fait use plugin Eclipse et en fait on s'amène avec toutes les conventions et il n'y a plus qu'à déclarer en entrée le nom de sa feature ou de son product et sa build.
Ah, c'est pas mal ça.
Ça c'est pas mal.
Donc, enfin, ça, pour moi, ça rajoute un atout là que tu n'avais pas cité, c'est un peu l'extensibilité du système. Si tu peux venir avec ton plugin et
Voilà, bah.
créer ta tâche, en fait, ta tâche hante, moi j'ai assimilé ça à une
Alors.
tâche hante.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est où ils sont localisés ces plugins.
Ouais.
Alors c'est comme en Ant, aujourd'hui ils sont localisés en fait dans la distribution Gradle, dans l'archive. C'est-à-dire tu télécharges Gradle,
Ouais.
tu peux tout faire en Gradle. C'est-à-dire tu peux compiler, packager, déployer
Par rapport à ce que tu disais sur
sans avoir
Maven.
besoin d'une connexion Internet.
Ouais.
Mais à terme, ils pourront aussi être, mais d'ailleurs c'est prévu, ils vont être stockés également, disponibles donc dans un repository public. Comme ça, on pourra augmenter de version d'un plugin sans avoir à augmenter la version du Gradle Core en fait. Donc ça, c'est à terme. Mais aujourd'hui, ils sont dans la distrib, il y a tout dedans. Et elle n'est pas très grosse la distrib. Hein. C'est un peu comme Ant, c'est très léger et ça fait tout quoi. Donc facilité d'écriture, de packaging d'un nouveau plugin, notion de composant, c'est à la demande. Donc ça, c'est-à-dire que c'est uniquement, je veux ce plugin, je m'amène avec les conventions du plugin. Si je le déclare pas, vraiment à Maven, bon ben, bah, j'ai pas besoin de l'utiliser. Et à ce moment-là, Gradle joue à ce moment-là un rôle un peu comme Ant ou Gantt, un simple builder. Mais avec la Groovy. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu pour les conventions. Concernant Ant, ben ça on l'avait déjà un petit peu abordé. Donc l'idée c'est fournir une DSL Groovy au-dessus de Ant qui permet en fait de réutiliser toute tâche Ant nativement. C'est-à-dire au lieu de tout réécrire, ben, ils ont un peu de jugeote. C'est-à-dire que ben non, ben, je vais. Pourquoi réécrire un plugin qui, par exemple, qui fait du déploiement FTP si la tâche Ant existe.
Bien
Autant
sûr.
l'utiliser.
Là, juste pour repasser un peu dans le concret, tu peux me dire encore la même chose que tout à l'heure, donc on n'a pas de, enfin, c'est juste un audio, mais dis-nous un petit peu comment on utilise une tâche Ant dans un script, enfin, dans un programme
Alors en
Gradle.
fait, en réalité, c'est grâce en fait à l'objet Groovy Ant Builder qui fait la connexion entre Groovy et Ant en fait.
D'accord.
Et en fait,
Donc
en
tu
gros,
bénéficies du support
en gros,
de
en fait,
Groovy.
tous tes éléments, le nom de ta balise, ça va devenir une propriété, et en fait, tes sous-éléments vont devenir des attributs. Puis deux points, et tu mets la valeur.
D'accord.
Et après, tu peux aussi utiliser une notion de closure pour surcharger avec tes attributs, etc. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. Donc, dans ce cas-là, on voit vraiment qu'en fait, Gradle, c'est vraiment. Il a un rôle de wrapper en fait au-dessus de Ant.
Ok, j'enchaîne. En fait, là, pour te dire, il y a Grégory qui me fait des grands signes.
Non, bah, donc après on peut enchaîner sur les autres features de Gradle. Donc on a parlé des conventions, on a parlé la réutilisation native de toute tâche Ant, et ceci gratuitement. Ça c'est important de parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas d'autres choses à télécharger, il n'y a pas de, il y a pas de, de code à réécrire. C'est la distrib de Gradle inclut Groovy et inclut Ant et c'est fini, il y a tout dedans quoi.
D'accord, ok.
Et tout est disponible. Bien sûr, si tu as ta tâche, tu as une tâche Ant tierce, c'est-à-dire qui n'est pas, inclus dans la distribution de Ant, bah tu la, tu la télécharges et puis tu la mets dans ta distrib et c'est fini quoi.
Donc justement, si tu as besoin d'un plugin tiers, tu as un repository comme en Maven ou tu la télécharges directement sur, sur le web?
Non, mais en fait, ça, je t'en ai déjà parlé, c'est que tu n'as pas compris. En fait, donc, Gradle, donc c'est aussi un core et un ensemble de plugins. C'est ces plugins qui fournissent les conventions. Et aujourd'hui, en fait,
ils sont packagés,
Dans la distrib Gradle.
Ok. Donc par rapport à la,
là, mais pour à le terme, coup, là, ils pourront, et c'est prévu qu'ils soient dans un repository public.
Éclaté de la distrib.
Éclaté de la distribution. Okay.
Alors, par rapport au repository applicatif là, de librairie pour nos projets, comment ça marche par rapport à Maven par exemple?
Alors ça donc c'est là qu'intervient en fait la notion de le rôle en fait du gestionnaire de dépendance CV. Et encore une fois, on a une complète flexibilité de stockage et d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, en Maven, tes librairies que tu voulais, soit tes librairies open source, Log4j, JUnit, soit tes librairies en fait organisationnelles en partage entre soit qui requièrent sous licence ou alors des artefacts d'entreprise en fait que tu veux partager entre les équipes de développement, ils sont obligatoirement en fait pour que ça marche dans des repositories distants. C'est mandatory, c'est obligatoire. Ces repositories distants, bien sûr, c'est pas forcément des repositories internet, mais c'est surtout des repositories d'entreprise, mais c'est des repositories distants.
D'accord.
C'est pas des parce qu'en Maven, tu as la notion de repository distant et une repository locale. Mais le repository local, ce n'est qu'un cache. Et il est propre à l'utilisateur. Chaque utilisateur a un et un seul repository local et après se connecte à N repository distant. Et c'est quand même dommage de ne pas pouvoir, et ça, Ivy va te l'apporter, de pouvoir tout simplement te connecter sur un repository local. Donc tout à l'heure, on parlait de ton fameux répertoire libre dans ton projet, qui est éventuellement stocké dans un SCM. Et grâce en fait à Ivy, et plus précisément en fait à Gradle, tu vas pouvoir également mettre en place des mécanismes de gestion de dépendance, et avec gestion de dépendance également transitive, sur un répertoire local et même à plat. Typiquement, par exemple, j'ai dans mon répertoire libre, j'ai une trentaine de librairies. Tout au même niveau, à plat.
D'accord, ok. Comme à l'ancienne.
Voilà. Et ben, je vais pouvoir, en fait, sans descripteur Maven ou descripteur Ivy, c'est-à-dire sans fichier pom.xml ou sans fichier ivy.xml, dire par exemple, Hibernate, en fait, je déclare Hibernate, qui va dépendre, en fait, typiquement de ASM, qui va dépendre de Common Lang, etc. Mais de manière programmatique dans mon script de bulle Gradle. Donc c'est ce qu'ils appellent en fait les client modules. Et donc je peux programmer mes dépendances et mes dépendances transitives programmatiquement sans descripteur ivy.xml ou pom.xml, de telle sorte que après j'aurai juste à déclarer un petit peu, et c'est l'atout de Maven, je déclare j'ai besoin d'Hibernate, donc je déclare je veux le bloc Hibernate. Et lui va me récupérer en fait l'artefact Hibernate et toutes ses dépendances dont il a besoin.
D'accord. Donc si je te suis, en fait, on peut utiliser la structure qu'on veut, la structuration qu'on veut. On rapatrie les librairies, par exemple, à plat.
Voilà.
Et ensuite, que j'ai pas bien suivi,
En fait, tu peux utiliser n'importe quel repository en termes de localisation et en termes d'organisation.
D'accord. Mais dans l'exemple que tu prenais,
et ensuite,
tu définissais ton bloc Hibernate avec
Et après, un repository donné, quelle que soit son organisation, tu peux toi-même programmer en fait tes dépendances sans avoir à écrire un descripteur Maven ou un descripteur Ivy en XML.
D'accord. Mais c'est les dépendances vis-à-vis du bloc Hibernate,
oui.
Ou alors justement, c'est les dépendances d'Hibernate vers ces librairies
C'est les dépendances de Hibernate vers ces librairies dont il a besoin.
D'accord. Et ça se situe dans ton script client? Ou alors justement, c'est au niveau du repository
non,
local.
Dans ton script client.
Dans le script client, d'accord.
Voilà.
Après, du coup, tu peux complètement surcharger les dépendances
complètement.
De n'importe quelle librairie.
Voilà, complètement.
D'accord, donc tu externalises par rapport à la politique Maven qui met un pomme dans chaque jar, ou même OSGI avec un manifeste. Bah là, tu externalises la gestion des dépendances, la description des dépendances.
Voilà, c'est ça. Okay. Et après, l'idée, après, comme en Maven ou en Eevee, c'est effectivement, tu as une section de dependencies où tu déclares pour compiler, par exemple, dans la configuration de compilation, j'ai besoin d'Hibernate. Dans la configuration test, j'ai besoin de ma librairie JUnit, etc. Donc après, c'est le même mécanisme que Maven ou que Eevee, sauf que, toujours dans la même philosophie de Gradle, c'est programmatique, il n'y a plus de XML, et puis c'est flexible, c'est-à-dire si j'ai envie de créer ma propre configuration. Par exemple, un des problèmes de Maven, c'était, moi je l'ai toujours dit, c'est mais pourquoi, par défaut, on a des dépendances transitives. Alors qu'en Gradle, c'est soit je dis je dépends d'un module et je vais récupérer l'artefact et ses dépendances transitives,
ouais.
Soit je dépends juste de l'artefact. C'est-à-dire je vais récupérer juste Hibernate par exemple, mais pas tout ce qui vient avec. Et ça, Maven ne sait pas le faire. En Eevee, il sait le faire avec un transitive égal false,
ouais.
Mais Gradle sait le faire.
Quel serait l'intérêt de récupérer Hibernate sans ses dépendances? C'est que tu les as déjà par ailleurs
Je les ai déjà par ailleurs ou tout simplement je les veux pas. Parce qu'en fait, souvent on récupère des choses qu'on veut pas parce que les descripteurs en fait Maven, parce que c'est surtout principalement des repositories Maven, donc des artefacts Maven, en fait souvent ils ont été construits dynamiquement à partir de Maven 1. Et donc du coup en fait on retrouve des descripteurs qui sont des mauvais descripteurs avec plein de
qui
sont tout pourris.
Ah ça va assez loin.
Et en gros pour info en fait en gros ils n'ont pas le optional à trous. Mm-hmm. Et donc tu vas récupérer tout alors que tu n'en as pas forcément besoin au runtime et donc du coup tu es obligé en Maven de mettre des gros blocs d'exclusion. D'accord. D'ailleurs au passage tu peux pas faire d'exclusion globale. Eevee tu peux le faire. Et Gradle aussi d'ailleurs.
Donc c'est vraiment, c'est pour pallier en fait à la vision un peu extrémiste de Maven qui considère que le POM est forcément juste, etc. Donc tu payes un peu le manque de flexibilité de Maven là-dessus. Quoi.
Voilà, tout à fait.
D'accord, je comprends mieux cet aspect-là.
Voilà, et puis surtout, donc ce qu'il faut retenir, c'est sur la partie gestion des repositories, c'est-à-dire que j'utilise n'importe quel repository, il est distant ou il n'est pas distant, il est organisé à l'intérieur sur le layout comme je veux. Mm-hmm. Soit je réutilise en fait une infrastructure Maven, c'est-à-dire un repository Maven ou Eevee existant, c'est-à-dire qu'il est capable vraiment de lire, d'analyser le descripteur Maven, le pom.xml, ou le descripteur Eevee, le Eevee.xml, ou je programme mes propres dépendances avec la notion de client module. Voilà.
D'accord.
Et justement, par rapport à Maven, l'autre point, c'est que il est capable de lire. Mais il est capable aussi d'écrire, c'est-à-dire que je suis capable en Gradle, mais ça c'était surtout grâce à Eevee, je suis capable en fait de générer en fait des artefacts Maven, donc que ce soit une release ou une snapshot, avec ces métadonnées, et donc mon script il est en Gradle, mais je produis des artefacts Maven. Donc je suis un complément d'une infrastructure Maven existante.
D'accord, donc là éventuellement tu peux faire ce choix Gradle à l'intérieur d'une infrastructure d'entreprise Maven sans aucun souci.
Et c'est l'approche qui m'a permis en fait de vendre Gradle où je suis actuellement.
Ouais.
C'est de ne pas voir Maven Gradle comme une alternative mais comme un complément et en donnant justement plus de flexibilité à l'infrastructure à l'infrastructure Maven existante. Et donc aujourd'hui par exemple, moi j'utilise pas Nexus mais j'utilise Archiva malheureusement, mais j'utilise donc tous mes scripts, j'ai migré de Ant ou de Maven à Gradle,
ouais.
Mais je continue à utiliser un gestionnaire de repository Archiva qui me fournit des repositories d'entreprise, ces notions de cache, notions de proxy,
effectivement,
etc.
Là, je saisis bien l'avantage de ce feature là.
Voilà. Donc voilà un petit peu le tour. Maintenant, l'autre type de feature, c'est la gestion d'un multi-projet ou d'un projet multi-module. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un projet core, donc une librairie core, puis un projet de présentation qui va utiliser ce projet core.
D'accord. Donc ça, c'est pour le découplage des projets. Si je rattache un petit peu, si j'essaie d'interpréter ce que tu dis, bah, c'est vrai qu'en Maven, on pouvait déjà définir des projets multimodules.
Voilà, typiquement en Maven, on avait par exemple.
On avait un POM à chaque étage en fait, chaque répertoire.
En fait, on avait un projet multimodule, c'est-à-dire que j'avais une couche de présentation, une couche business éventuellement. Puis une couche technique, par exemple si je voulais packager dans un EAR, éventuellement une couche thèse d'intégration, etc. D'accord. Donc en Gradle, on a toujours cette notion de couche si on le souhaite, mais l'avantage en fait c'est qu'on a une notion en fait d'injection de configuration. Alors qu'en Gradle, en fait, on avait uniquement de l'héritage. Gradle, en fait, en Gradle, tu as un projet maître, un projet racine, un projet route.
Tu disais le corps, en fait.
Enfin, non, tu vas mettre le corps, c'est la librairie, c'est la librairie transverse. Ouais. Mais comme en Maven, en fait, tu as un projet route, qui est le packaging POM, quoi. Okay. En fait, le projet qui orchestre en fait, tous les sous-modules. Donc en Gradle, tu as toujours ça. Mais c'est au lieu en fait, de répéter, en fait, c'est-à-dire plus précisément d'avoir un descripteur Maven dans chaque sous-projet, en fait, tu peux toujours l'avoir en Gradle, mais souvent il n'est pas nécessaire.
Tu répètes souvent la même chose, c'est ça?
Donc du coup, c'est dans mon projet racine, dans mon projet maître, je vais décrire par exemple tous mes sous-modules vont utiliser Java 1.5, et puis par exemple pour le sous-module web, je décris ses dépendances vers le core ou vers log4j. Et à l'exécution, en fait, je vais avoir une injection de configuration qui va me permettre donc de rendre optionnel tous mes sous-modules, enfin le descripteur Gradle pour tous mes sous-modules. Et donc ça, c'est la plus grosse avancée.
Donc si j'ai pas de descripteur à un étage,
c'est pas grave parce que c'est piloté par.
C'est piloté par le premier qui va trouver, enfin l'injection.
C'est piloté par le maître.
Par le maître.
Par le maître. Et ça, c'est plutôt génial, quoi.
Ensuite, concrètement, c'est quoi le bénéfice de faire ça? C'est de pas avoir à
écrire. Par exemple, lorsque j'ai un projet qui a une trentaine de sous-modules, mais au lieu d'avoir un pom.xml dans chaque sous-module, avec souvent
qui donne juste une version.
Juste une version ou qui décrit, qui est quasiment vide, quoi.
Ouais.
Ou même qui décrit ses dépendances, je centralise, d'accord, en fait, je centralise tout dans mon projet maître. Il y a une propriété subproject. Et c'est beaucoup plus maintenable. Et donc on retombe un petit peu en fait finalement dans le but finalement d'un système de build, c'est que ça soit maintenable. Et si tout est centralisé à un seul endroit, et puis très court, tout en étant très court et peu verbeux, c'est génial.
Okay.
Et puis surtout aussi ces notions de layout, c'est-à-dire que en Maven, organiser un projet sous module, c'est pas si simple que ça parce que on peut pas faire ce qu'on veut en termes d'organisation, c'est-à-dire un répertoire puis un sous-répertoire, etc. Bon, en Gradle, on fait ce qu'on veut.
Comment tu mets en place justement cette flexibilité du multimodule?
En fait, tout simplement, ton projet sous-module, ton multiprojet, il est organisé comme tu le souhaites et Gradle s'adapte.
Bon. Donc dans c'est Gradle, c'est toi qui vas décrire un petit peu comment c'est organisé et puis...
Voilà, c'est-à-dire que typiquement, à extrême, c'est-à-dire si jamais je ne suis pas dans un même répertoire, j'ai deux sous-modules par exemple, si mes deux sous-modules ne sont pas dans le même répertoire mais sont complètement éclatés dans des répertoires différents, c'est très bien géré.
D'accord,
pas de problème. Marc Maven, ça va plus difficile.
Et donc c'est dans le document, dans le maître que tu vas pointer vers...
Que je pointe, en fait, j'ai un fichier setting.xml qui me dit comment s'organiser. Donc voilà un petit peu pour la gestion des un projet multimodule. Mais après, bon, faut le mettre en pratique pour vraiment comprendre. Et la dernière grosse feature en fait de Gradle, en fait, c'est son Gradle Wrapper. Donc définition de Gradle Wrapper, en fait, c'est pouvoir utiliser en fait Gradle sans avoir à installer et configurer Gradle.
Alors vas-y, explique un peu plus en détail.
Donc en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, en réalité, il met à disposition en fait un script bat ou un script sh sous Unix qui va en fait télécharger sur un repository un endroit précis, donc par défaut internet public,
d'accord,
mais on peut lui configurer à un autre endroit, récupérer la distribution Gradle et l'utiliser. Et ça, c'est super utile, notamment dans un système d'intégration continue, où l'idée, en fait, c'est d'être indépendant. Hein, un des principes d'intégration continue, c'est d'avoir un build complètement indépendant de la plateforme. Parce que je peux avoir plusieurs versions de Gradle, ma variable d'environnement pointe sur le mauvais truc, mon pass a été écrasé, etc. Et là, l'idée, c'est que c'est un zip, par exemple. Il intègre en fait juste ce point bat ou ce point sh. Je pose. Il va utiliser un référentiel public donc pour télécharger. Et si, alors, c'est pas la première fois hein, parce que après il se met dans un cache, bien sûr. Mais et après il va wrapper en fait toutes les commandes Gradle que tu utilises classiquement. Et du coup tu es indépendant en fait de la plateforme puisque tu prends, tu poses et pas besoin d'installer, c'était une variable
Par
d'environnement.
contre, j'ai pas compris justement qui embarque ce point bat. C'est ton projet applicatif qui va embarquer ce point bat
Tout
ou...
à fait.
D'accord.
Tout à fait.
Donc
Donc,
là, d'accord. Donc tu n'as pas besoin d'aller préconfigurer une plateforme, une infrastructure. Ça va auto-télécharger tout ce qu'il faut pour builder, quoi.
voilà.
Ah, c'est sympa.
Typiquement, ce point bat, en gros, il est en gestion de conf, quoi.
D'accord. Et ça marche dans l'IDE ou c'est seulement pour l'automatisation des...
Alors, l'IDE, on y reviendra
Enfin, du
après,
coup, après, on se ramène à la ligne de commande, j'imagine,
mais
puisqu'on est en
après,
point
en
bat.
fait, pour invoquer Gradle, on invoque en fait Gradle, par exemple Gradle Compile, et là, en fait,
Mais là, tu as
il
déjà
wrap
Gradle.
juste, donc c'est Gradle W Compile. En fait, c'est juste un wrapper, et puis il va utiliser le wrapper au lieu
D'accord.
d'attendre que Gradle soit dans le pass, en fait, tout simplement.
Ok.
Et ça marche très
Donc
bien.
c'est le bootstrap en fait de ton système de build.
Si tu veux, en fait, voilà.
Ok, c'est sympa.
Et c'est super utile, notamment sur un parti intégration continue, quoi.
On enchaîne. Donc là, effectivement, on a l'impression que...
Que Gradle, c'est en fait l'outil ultime.
Voilà,
Il faut tout de suite
exactement.
que.
Bon, alors, je suppose que, bon, tu as déjà déployé du Gradle dans tes missions. Tu as un certain retour d'expérience. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est que tu parles un petit peu des défauts, quoi. Que tu sois honnête pour admettre quels sont ces points faibles et là où ça fait mal, en fait. Enfin, là où on peut l'améliorer, on va dire.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'en fait, le plus gros défaut de Gradle, en fait, c'est son manque de maturité. Hein. C'est-à-dire que ça reste quand même un produit jeune, hein, qui a
Ouais.
un petit peu plus d'un an.
Alors,
Et
en
notamment,
quoi tu vois ce
voilà, en
manque de
fait, il manque
maturité?
quelques features, mais néanmoins, ils sont quand même très, très proactifs, ils sont très actifs, et ça va très vite, et notamment d'ici la fin de l'année, on aura toutes ces features. Donc, quelles sont ces features qui manquent? Ben, aujourd'hui, par exemple, il manque un plugin OAR. C'est-à-dire qu'on a un plugin WAR pour gérer et déployer une archive web classique, mais pas une archive d'entreprise, un
Voilà, il
OAR.
manque pas grand-chose.
Alors, non, c'est juste une question de temps.
On sent bien que c'est là, c'est la jeunesse. Hein.
Voilà, donc aujourd'hui, comment on fait? En fait, on utilise la tâche ANT. Alors, en fait, c'est pas bloquant parce que c'est assez natif, quoi, donc l'utilisation de ANT,
Ouais.
donc ça va assez vite. Après, il manque la prise en compte de certains plugins comme par exemple Flex, Scala. Bon, ça, on n'utilise pas tous les jours, mais enfin pour.
Le jour où tu en as besoin,
Voilà.
d'accord.
Après, c'est surtout la prise en compte, la facilité de prise en compte de métriques natives comme tout ce qui est checkstyle, JDepend, Java NCSS, etc. Aujourd'hui, comment on met en place des métriques dans Gradle? En fait, on utilise les tâches ANT existantes. Ah,
D'accord.
de par la DSL Groovy, en fait, c'est très court et ça se met très facilement en place. Mais on aurait souhaité peut-être une intégration un petit peu plus native. Aujourd'hui, c'est pas le cas,
Bon, c'est
mais
pas un vrai défaut, enfin,
voilà.
tu peux toujours t'en sortir.
Par exemple, aujourd'hui, il y a la Javadoc comme métrique native. En fait,
D'accord.
Gradle Javadoc, ça génère la Javadoc.
Ok, d'accord.
Mais il faudrait l'avoir pour les métriques. Mais donc ça, c'est plus du pinaillage. Par contre, la grosse feature qui est prévue en Gradle 1.0, aujourd'hui on est en Gradle 0.6. Et là, je pense qu'une fois que cette feature-là va être sera
Ouais.
disponible, ça va vraiment devenir l'outil utilisé par tout le monde. C'est le support en fait comme langage de script Jython ou JRuby. Donc Jython c'est Python en Java et JRuby c'est le Ruby pour Java.
Tu veux dire, au lieu d'écrire un script de build
En
en Groovy,
Groovy,
pardon,
je vais
je
pouvoir
peux l'écrire
également, enfin, il y aura la possibilité de pouvoir écrire mon script de build en Python, enfin en Python quoi.
Mais en quoi ça...
Ben, c'est-à-dire que tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres à toute la communauté Python et à toute la communauté Ruby, qui est
Sauf que,
énorme.
mais tu restes sur un, sur une JVM Java.
Oui, ah, ça par contre, effectivement, on reste sur une JVM Java, mais.
Tu virtualises un peu les langages sur ta JVM.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Sauf qu'avec ça, quelqu'un qui connaît du Python, il va utiliser un script Gradle écrit en Jython. Et comme ça, il va pouvoir builder son Python, c'est ça?
Voilà. Voilà, donc ça c'est premier défaut de Gradle, mais c'est pas vraiment un défaut finalement parce qu'il est encore jeune.
Ouais, puis pour l'instant, si tu fais du Java, bon, t'es pas trop...
Si je fais du full Java et puis
Le fait d'écrire ton script de build en Groovy, ça
en
va pas
Groovy,
te
voilà.
choquer, quoi.
Ensuite, quelques autres défauts, eh ben c'est, je dirais finalement, c'est aussi son support IDE. Autant Maven, donc Ant, c'est l'outil de build qui est le mieux intégré dans les IDE.
Ouais,
Maven, il n'est pas
le
très
plus
bien
ancien.
intégré dans les IDE malgré qu'ils ont fait beaucoup d'efforts avec M2 Eclipse et projet IAM Q4E. IntelliJ et NetBean, au passage, proposent la meilleure intégration Maven du marché. En Gradle, et de fait aussi que ça soit du Groovy, on n'a pas de support IDE aujourd'hui. Ça, c'est quand même dommage. Mais c'est prévu et ça commence à. Par exemple, il y a un plugin IntelliJ qui commence. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ah, déjà, IntelliJ, ça veut dire qu'il y a une demande. S'il développe quelque chose, c'est qu'il y a forcément une demande
Voilà.
croissante, quoi.
Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, on va utiliser Gradle juste en external command, mais on n'a pas une intégration native. Voilà. Ensuite, l'autre défaut de Gradle, c'est en fait, je dirais finalement la trop grosse popularité de Maven.
Ouais, mais ça, c'est pas un défaut, c'est ça va
Ben,
venir.
c'est-à-dire qu'il manque en fait, bon, il manque de presque, je dirais, il y a très peu qui connaissent que Gradle ça existe. Moi, je suis
Mais
élu.
là, on est là justement pour populariser
Voilà. Mais
le
quand
système
je
de
dis la trop
build.
grosse popularité de Maven, c'est que c'est quand même dommage. Aujourd'hui, quand j'interviens chez des clients, en fait, et d'ailleurs, par exemple, sur le client où je suis actuellement, j'ai été embauché pour ça, c'est on a des scripts de build en Ant,
Ouais.
et on veut migrer en Maven. Et on a besoin d'un expert Maven. Mais ils veulent migrer en Maven parce que c'est l'outil qui est très populaire, très utilisé, mais ils savent pas finalement tous les avantages, mais surtout les inconvénients de Maven. Mais ils veulent passer en Maven parce que c'est la mode. Et ça, c'est quand même dommage. Et dans ce
Maven, c'est...
contexte-là.
Enfin, je pense que Maven, c'est assez structurant pour une organisation fasse ce choix-là, en fait. S'ils ont bien saisi en fait tous les soucis qu'il peut y avoir par rapport aux accès aux repositories, enfin tout ce que tu as cité hein, sur les défauts de
Voilà,
Maven.
surtout l'aspect lorsqu'on est en environnement fermé.
Ouais, voilà. Donc bah, à partir de ce moment-là, eux ils ont quand même un avantage à utiliser Maven, puisqu'ils passent d'un Ant un petit peu où chaque projet a son script, etc. Bah, ils ont les bénéfices de Maven. Donc. Toi derrière, si tu viens avec Gradle, tu vas pas casser leur choix et donc tu vas décupler la valeur ajoutée qu'ils vont avoir avec une
Voilà,
infrastructure Maven.
en utilisant Gradle, comme je l'ai dit, comme un complément.
Ouais, voilà, en tant que
Et
complément.
voilà. Mais
Ça c'est.
juste ce que je voulais noter, c'est qu'en fait, souvent les entreprises passent à Maven parce que sans connaître toutes les conséquences. Et sans savoir que finalement, Maven, c'est l'outil le plus adapté pour eux, quoi. Et souvent, ils ont de méconnaissance, mais disent on passe à Maven. C'est juste ça que je voulais dire, quoi.
D'accord.
Donc voilà, et puis quelques autres défauts finalement
Enfin, je
de.
reviens juste quelques secondes. Il y a aussi certains développeurs qui ont poussé des années pour passer de Ant à Maven dans les organisations. Donc déjà, la maturité qu'ils ont de dire on a détecté Maven et de passer à Maven, enfin, pour moi, c'est plus un bon signe que...
En fait, ça dépend parce que dans notre contexte, on est beaucoup dans l'informatique de gestion et c'est vrai que Maven est souvent un très bon choix et est difficile presque à remettre en cause. Mais dans l'industrie, surtout dans des environnements fermés ou dans des projets un petit peu exotiques, Maven, c'est pas adapté.
D'accord,
Et ça,
il baisse un peu de performance là-dessus.
Voilà. Ensuite, quelques autres défauts de Gradle, en fait, c'est un défaut qui n'est pas souvent cité, on pourrait parler en fait du support de Sonar, donc le support dans Sonar. Est-ce
D'accord.
que tu connais Sonar?
Ouais, Sonar, pour moi, c'est une base de données qui capitalise en fait toutes les mesures des métriques qui viennent des métriques qualitatives sur le code source d'un projet.
En
Alors
fait,
après, je
ça...
vois pas bien en quoi il faut du Gradle dans Sonar en fait, parce que pour moi, c'est le mojo, là, le code qui va récupérer, enfin qui va passer les métriques, hein, qui va exécuter les métriques. Il n'a pas forcément besoin d'être écrit en Gradle. Tu vas pouvoir nous expliquer tout ça?
Alors, en fait, il y a deux niveaux.
Ouais.
Premier niveau, c'est qu'en fait, bon, donc Sonar, c'est un agrégateur de métriques, un collecteur de métriques.
Ok, merci de me corriger.
et puis, en fait, il va permettre en fait de visualiser en fait dans le temps, avec une historisation en fait.
Time machine.
Voilà, tout à fait.
Enfin, ça, je l'avais.
Et le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est très lié à Maven. C'est-à-dire que
Ah, utilise ça comme mécanisme.
il accepte en entrée soit un projet Ant, soit un projet Maven. Et dans le cas d'un projet Maven, en fait, il va utiliser, si tu veux, en fait, les conventions de Maven pour tout simplement générer en fait les métriques checkstyle, Java NCS, couverture de code, etc. Grâce aux conventions de Maven, il sait où sont les conventions de nom, enfin surtout les structures des répertoires.
Ouais.
Et donc ça facilite en fait le lancement des métriques, puis ensuite la collecte.
D'accord.
C'est-à-dire où les fichiers résultats sont placés, etc. Donc le fait de se baser sur Maven en entrée, c'est très utile. Et d'ailleurs, en Ant, même s'il accepte des projets Ant en entrée,
ouais.
en fait, à la volée, en fait, il génère un descripteur Maven, un pom.xml, à partir des données Ant.
D'accord.
Et il permet ensuite, c'est ce qui lui permet en fait d'invoquer les métriques, checkstyle, PMD, etc., et de collecter les résultats pour
Donc
ensuite
lui,
les agréger.
En fait, quand il a une interface unique, c'est Maven, quoi. Même
voilà.
s'il accède du Ant, il
Mais
se
c'est quand
débrouille
même...
pour se mettre dans ce cas-là.
Alors, j'avais déjà posé la question sur le forum. En fait, mais c'est prévu, en fait, si tu veux, c'est qu'à terme, c'est vrai que pourquoi se baser finalement sur Maven? Parce que qui dit se baser sur Maven dit finalement être dépendant de l'infrastructure Maven.
Tout à fait.
Et c'est pas si natif que ça. Parce que. Par exemple, dans mon cas, en environnement fermé, je suis obligé finalement d'avoir un mécanisme de repository qui est géré par un archiva, et cet archiva, il est non connecté à Internet et il contient l'ensemble des artefacts nécessaires pour mon projet.
D'accord.
Pourquoi mettre en place une infrastructure Maven si je veux juste invoquer les métriques? C'est quand même un petit
Ça
peu lourd.
Discute, effectivement.
Alors que,
bon, c'est une contrainte de Sonar. Voilà.
Voilà. Et donc du coup. Une fois que Gradle aura évolué en fait et pourra proposer plus nativement en fait le support des métriques checkstyle, PMD, couverture, etc., notamment par son mécanisme de plugin qui fournit les conventions,
ouais.
Sonar pourra à ce moment-là lire ces conventions et donc pouvoir exploiter quelle métrique a lancé, enfin surtout où sont les sources et puis où sont le résultat de la collecte,
D'accord.
sans avoir à installer une structure Maven, parce que Gradle, finalement, comme on l'a dit, c'est tu prends, tu poses,
ouais.
et c'est tout. Donc ça, ce serait plutôt une avancée. Et l'autre support, l'autre défaut de Gradle, en fait, c'est son intégration dans les outils, dans les moteurs d'intégration continue. Donc aujourd'hui, juste pour dire, en fait, Gradle, lui-même, en fait, il utilise son propre outil pour builder en fait. C'est-à-dire qu'il va compiler, packager, déployer, générer sa documentation, son user guide, sa roadmap, générer l'archive et la déployer avec Gradle. Donc il utilise lui-même Gradle pour construire Gradle. Donc ça c'est
ça,
quand même
c'est
un signe d'efficacité.
Une bonne santé.
Au niveau du moteur d'intégration continue, l'équipe Gradle en fait ils utilisent TeamCity et Bamboo. D'accord. Et il n'y a pas de plugin TeamCity ou de plugin Bamboo, il n'y a pas de plugin Gradle pour TeamCity ou Bamboo, parce qu'ils utilisent tout simplement en fait le Gradle Wrapper.
D'accord.
Et ça marche très bien.
Tout à l'heure. Donc pour TeamCity, c'est du Maven, c'est ça?
Voilà. Mais donc pour Hudson, on pourrait également utiliser le Gradle Wrapper, ça marche très bien. Mais ce qu'on pourrait finalement avoir, c'est en fait un plugin. Donc il existe déjà aujourd'hui un plugin Hudson pour Gradle, mais il ne fait en fait que orchestrer en fait les paramètres de la ligne de commande et l'invoquer. Mais ce qu'on pourrait avoir à terme, c'est d'avoir une intégration de Gradle comme l'intégration Maven dans Hudson. C'est-à-dire gestion d'un multiprojet, ouais. Segmentation des logs, exactement la chaîne d'exécution avec le temps de chaque plugin qui s'est exécuté, son temps. Et ça c'est prévu.
Ouais.
Mais c'est
j'ai l'impression que tu y es pour quelque chose. On dirait, je crois déceler un petit sourire sur ton visage là. D'accord. Donc toi, tu souhaiterais une intégration un peu plus poussée, voilà, que juste le wrapping.
Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, c'est un peu ma faute parce que c'est moi qui ai fait le plugin Gradle de Hudson et j'ai pas eu le temps de pousser plus loin.
De pousser plus loin. Ouais. Bon, déjà, c'est un bel effort.
Voilà.
Ok. Donc bah. Là, je pense qu'on est arrivé effectivement à faire bien le point, à bien comprendre ce que c'était que Gradle. Bah, on peut peut-être te demander si tu as des infos sur le, comment dire, la popularité de Gradle, quoi.
Alors, en fait, aujourd'hui, en fait, donc malgré sa jeunesse, en fait, le nombre de projets Gradle croît. De plus en plus d'entreprises sautent le pas et mettent à...
C'est des petits développeurs dans leur coin.
Mais c'est vrai que c'est des petites équipes agiles qui ont sauté le pas. En termes de projets open source, en fait, on va retrouver le builder Gradle dans beaucoup de projets, dans un peu l'écosystème Groovy. Donc je pourrais citer en particulier, par exemple, Gmock, framework de mock pour Groovy, Mockito, je t'en avais parlé, successeur de Gmock et de EasyMock. On avait Groovy Web Service qui utilise aussi Gradle. CodeNarc, qui est un outil d'analyse statique pour Groovy, qui est notamment utilisé en particulier sur les applis Grails. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Gradle lui-même. Donc, néanmoins, en fait, si tu veux, bon, c'est vrai que c'est récent, mais le nombre de buzz, rien que déjà notre interview aujourd'hui, mais le nombre de buzz continue. C'est-à-dire que le leader, là, 11 docteurs, multiplie les presses au JUG, donc surtout en JUG Allemagne parce qu'il est allemand.
JUG Java User Group.
Voilà. Il sera au prochain JSON.
Ouais.
Et puis surtout, on espère qu'il soit à Paris bientôt, quoi.
D'accord. Donc il est assez présent et il représente bien son projet, quoi.
Voilà, il fait de plus en plus de buzz. Là, je viens de voir notamment sur Skillmatter qu'il a mis en place une formation d'un jour de Gradle.
D'accord.
Voilà, ça commence à évoluer.
Non, mais le fait qu'il y ait 2-3 projets open source qu'il utilise comme builder, c'est assez sympa, quoi.
Voilà. Et puis, on le voit aussi, on le ressentit aussi sur la mailing list. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai commencé Gradle pratiquement au début.
Bon, t'es un pionnier alors, tu vois.
Ouais, c'est vrai que depuis mai 2008, ouais, j'ai commencé. Alors au début, c'était tout simple. Hein, c'était juste création d'un zip, déploiement. Puis après, petit à petit, construction d'une bibliothèque Java, d'une bibliothèque J2E. Puis maintenant, management d'une target
genèse,
plateforme Eclipse.
Donc à la base, c'était parti sur le DSL au-dessus de Groovy.
Le DSL Groovy au-dessus de Ant. Ouais. Juste. Et puis après, maintenant, j'utilise vraiment les conventions.
D'accord.
Voilà. Et donc, il y a de plus en plus de buzz, comme je disais, sur la mailing list. C'est-à-dire qu'au début, c'était très calme. Et aujourd'hui, c'est vrai que le nombre de messages augmente chaque jour. Alors, on n'est pas encore au niveau de la mailing list Hudson, hein, bien sûr. Mais ça croît, ça veut dire que le nombre d'utilisateurs augmente. D'ailleurs, il y a un compte Twitter pour Gradle, Gradle.org. Donc voilà, plus de discussions, plus de buzz, encore une meilleure documentation. Rien que par exemple, la documentation dans la version précédente faisait 75 pages. Maintenant, elle en fait 135.
Bon, c'est pas la quantité qui compte.
Non, mais
surtout en documentation. Moi, je te cherche un peu. C'est vrai que ça monte. Bon, ça augmente, quoi, on va dire.
Voilà.
Donc là, on a fait le point sur les atouts. On va essayer de conclure. Qu'est-ce qu'il peut nous dire en tant que mot de la fin, on va dire.
En mot de la fin, c'est-à-dire, vous avez un système de build. qui utilise les conventions de Maven, mais complètement flexible, avec une syntaxe programmatique Groovy. Et au-dessus de tout ça, en fait, derrière tout ça, vous avez le gestionnaire de dépendance IV qui amène toute la partie complexité, modularité.
Donc là, faut prendre IV en main, en fait, pour avoir tous les bénéfices.
C'est-à-dire que par rapport à IV, oui, ce que j'ai pas dit, c'est souvent il était refusé parce que il était souvent trop complexe. Il y avait un coût d'entrée trop grand.
Ouais.
Et grâce à Gradle, grâce à CDSL Groovy, c'est beaucoup plus simple.
Tu rabaisses la complexité.
Voilà.
C'est sympa ça.
Là, justement, la dernière version de Gradle qui est sortie la semaine dernière, la 0.6, en fait, elle a mis en place une nouvelle DSL, beaucoup plus user-friendly, en fait, beaucoup plus riche.
D'accord.
Et moi, je ne conseillerais qu'une seule chose, quoi, téléchargez-le vite, installez-le, et puis essayez, quoi. Et vous allez être conquis.
Donc, ça va assez vite. Là, faut pas faire peur aux gens avec Ivy. Le DSL est là justement pour assurer la prise en main super facile, l'écriture d'un script. Tu mets combien de temps pour écrire un script qui build un Pojo Java?
Alors, ça dépend.
Tu mets une ligne, c'est ça?
ça dépend. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'ai divisé mon temps d'écriture par deux ou par trois. Quoi.
D'accord. Ton temps d'écriture, ton volume
surtout,
de code aussi.
Et puis surtout la maintenabilité. C'est-à-dire que, notamment, je parlais tout à l'heure de la partie gestion d'un projet multimodule. Avec avoir un descripteur centralisé au lieu d'avoir un descripteur dans chaque sous-module, puis d'analyser.
Le fait d'avoir à maintenir un programme de build au lieu de maintenir que des métadonnées, des descripteurs à la Maven, est-ce que tu penses que c'est un réel avantage ou est-ce que ça procure pas plutôt un risque? Parce que quand on écrit un programme de build, le risque c'est que ça devienne immaintenable, comme on avait des scripts très compliqués
avec
en Ant.
Mais
bon, il n'y avait pas d'instruction, il n'y avait pas de structure de contrôle. Là, on arrive vraiment vers un programme de build.
En fait, comme j'avais essayé un peu de l'expliquer tout à l'heure, en fait, le risque, c'est surtout, en fait, c'est comme en Java. Si tu mets un mauvais programmeur, il va faire du mauvais code. Mais là, si tu mets un mauvais intégrateur, ou on va dire un build master qui fait la chaîne de construction, la chaîne de build.
Agile, c'est l'équipe elle-même qui
voilà.
Fait ça.
En Gradle, rien ne t'empêche d'écrire un mauvais code, effectivement, un mauvais script. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour faire un if ou une boucle en Ant, tu devais utiliser la librairie tierce AntContrib, la tâche AntContrib.
Ouais, je me souviens.
Et puis, tu avais en XML un monstre de
pour
ifs and else
fort,
ou des forts, etc.
Compliqué.
Mais là, déjà, avec une syntaxe programmatique, c'est plus lisible, plus simple à mettre en place. Et puis, ok, en Ant, tu pouvais faire un peu n'importe quoi, mais justement, en Gradle, tu as les conventions si tu le souhaites. Comme en Maven. Convention flexible et convention à la demande. C'est surtout ça en fait.
D'accord. En tout cas, moi je suis convaincu. Je pense que je vais le télécharger. Je vais l'essayer très bientôt.
Mais en fait, tu sais que ton projet, utilises quotidiennement, en fait, derrière il y a du gradage.
Ouais, je sais, tu m'as déjà montré le DSL qui correspond au build. Donc, il suffit juste que je regarde mon build en fait.
En réalité, tu l'utilises déjà. Mais tu ne l'utilises pas peut-être à titre perso. Et
je mettrai mon nez là-dedans dès demain.
Voilà.
Ok, merci beaucoup Grégory.
C'est moi, merci.
Ouais. Cette expérience nous a tous les deux enrichis et j'espère qu'elle vous a apporté beaucoup aussi. Voilà. Ben, on vous souhaite bon courage pour nous écouter.
Au revoir.
Au revoir.